Bonjour à tous. Je vais, comme annoncé, vous parler du thème « Va, ta foi t'a sauvé ». Je vais le faire en faisant la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire lire des textes. Et donc, je vais vous proposer que nous voyons cet après-midi des textes de l'Évangile et demain, il va bien falloir toute la journée du dimanche pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'a voulu dire Paul sur ce thème de la foi. Donc, aujourd'hui, Évangile, demain, Paul. Je vais vous distribuer les deux textes que j'ai choisis pour cet après-midi. Et c'est là-dessus que je vous inviterai, après ma petite causerie, à réfléchir avec des questions. Enfin, tout ça est très, très au point et très pédagogique. C'est génial. Quelle ambiance. Alors le thème de l'après-midi et même du week-end, vous l'avez derrière moi. Je pense que certains se sentent plus concernés que d'autres, puisque j'ai vu qu'il n'y avait que le masculin qui était... Donc voilà, en fait, on ne sauve que les hommes.
Moi, ça me prend la tête, tous ces eux qu'on rachète partout. Pardon, bref, c'est maintenant que je me suis rendu compte, parce que j'ai fait la triche. Pardon, mais...
Dans l'Évangile, il y a deux. Enfin, Jésus le dit quatre fois, deux fois à des hommes, deux fois à des femmes. Donc on considère que la parité est absolument respectée. Alors, le ta foi t'a sauvé, il est assez probable que pour vous comme pour moi, cette phrase sonne a priori comme une sorte de slogan qui va, une sorte de phrase avec laquelle on est spontanément d'accord. Nous avons la foi, nous sommes chrétiens, donc nous sommes sauvés. Ta foi t'a sauvé, eh bien, je suis chrétien, voilà ma gloire, et je suis sauvé. Évidemment, il ne faut pas trop y regarder de trop près, puisque les questions que pose cette première compréhension de la phrase sont vite dérangeantes. Première question, et si nous manquons de foi ? Et si nous avons abandonné la foi, est-ce que ça veut dire que nous sommes perdus ? Deuxième question qui est fondamentale pour le christianisme, de quelle foi s'agit-il ? Et ceux qui n'ont pas la foi, surtout dans un monde comme le nôtre où, vous le savez, les chrétiens ne sont pas en écrasante majorité, les athées, ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas sauvés, et les musulmans. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? On les fait brûler en enfer puisqu'ils n'ont pas la foi, donc ils ne sont pas sauvés. Vous voyez que la première compréhension, comme ça, spontanée, pose immédiatement des difficultés, et c'est pour ça que je vous propose de regarder de plus près donc les deux grands ensembles que j'ai choisis. Enfin, c'est des ensembles assez évidents. Hein. Donc l'Évangile, d'où vient la fameuse phrase « Va, ta foi t'a sauvé ». Et puis Paul de Tarse, qui dit à peu près la même chose, avec une formulation légèrement différente. C'est la fameuse phrase de Galates 2, 16. « Nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi de Jésus-Christ. » Donc, l'un pour samedi, l'autre pour dimanche. En introduction, après avoir posé ça, j'ai essayé de savoir, donc, grâce à une concordance, combien de fois cette expression « ta foi t'a sauvé » se rencontre dans l'Évangile. J'en ai trouvé sept. Il y a sept occurrences, toutes dans les synoptiques, et disons qui se regroupent en fait en quatre épisodes. Il y a quatre épisodes où Jésus dit « à quelqu'un que sa foi l'a sauvé. Le premier épisode, c'est la guérison de la femme qui a un flux de sang. On disait autrefois une hémorroïse. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas rentrer dans des considérations médicales, je ne sais pas ce que c'est que ce flux de sang. Je sais en tout cas que dans la Bible, c'est une souillure. Le sang, vous le savez, le sang quand il jaillit du corps, de quelque manière que cela soit, est une souillure. Et donc la femme qui a un flux de sang est une femme qui est en permanence souillée, et pas simplement comme prévu par le Lévitique, pour une femme qui n'a pas cette maladie-là et qui a ses règles, juste le temps des règles. Donc la femme n'est pas en perpétuelle impureté. Donc là, on est sur... c'est le cas de quelqu'un qui est totalement impur. Deuxième occurrence, c'est l'occurrence que j'ai choisi de commenter. C'est Marc 10, 52. Oui, pardon, la femme hémorroïse. Matthieu 9, 22. Marc 5, 34. Luc 8, 48. La deuxième occurrence, c'est Marc 10, 52, qu'on en trouve également en Luc 18, 42, c'est la guérison de l'aveugle qui est laissée sur le bord du chemin. Troisième occurrence, c'est l'occurrence que j'ai aussi choisi de commenter, c'est 7, 50, la pécheresse qui, pendant le repas, va mettre du parfum sur les pieds de Jésus. Et puis, quatrième occurrence, pardon, 17-19 de Luc, c'est l'épisode de la guérison des 10 lépreux. Vous savez, Jésus rencontre 10 lépreux, il les guérit en bloc, tous s'en vont, sauf un qui revient, dont on dit que c'est un samaritain, et qui remercie Jésus. Et Jésus lui explique que sa foi l'a sauvé. Ça aurait été intéressant de le travailler, mais bon, j'ai fait un choix. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces quatre textes? C'est que ce sont tous des exclus, des marginaux, à qui Jésus dit qu'ils sont sauvés. Ce sont... Des impurs comme la femme, des aveugles en marge, des lépreux également en marge, et une pécheresse. Et deuxième considération, ce sont tous des gens qui ne sont pas responsables de leur péché. Alors, il y a la question de la pécheresse, vous verrez que la question est assez complexe. Mais d'une certaine façon, on n'est pas responsable d'être lépreux, on n'est pas responsable d'être aveugle, ni d'avoir un flux de sang. Et il y a cette question, qui va nous occuper. Qu'est-ce que ça signifie que cette phrase, et pourquoi est-ce que c'est uniquement à des gens qui spontanément ne font pas partie du groupe, la norme, qui ne font pas partie du groupe de majoritaire d'Israël, pourquoi est-ce que c'est à ce groupe-là, à ces gens-là, que Jésus assure du salut? Je vais commencer tout de suite par la guérison de l'aveugle Bartimée. Donc c'est le premier texte que vous avez sur votre feuille. Pour bien comprendre ce texte, il faut le replacer rapidement dans son contexte. Nous sommes juste avant la Passion, avant donc la grande montée finale de Jésus à Jérusalem. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Vous voyez que l'auteur, donc dans ce cas-là c'est Marc, décrit une situation très contrastée dans laquelle... On peut dire qu'il y a des groupes en opposition les uns par rapport aux autres. D'un côté, vous avez Jésus et la foule qui les accompagne, qui sont debout, en marche, sur une route qui conduit à Jérusalem en passant par Jéricho, et sur une route dont je vous ai dit qu'elle conduit à la Passion. De l'autre côté, seul, immobile, se tient le fils de Timée, Et dont on dit le nom, hein, Bartimée. Et en dehors des 12 apôtres, et avec Jaïr, il est le seul à recevoir un nom dans l'évangile de Marc. Donc ce nom est important, ce nom dit quelque chose. Et ce nom est assez étrange, puisqu'il a la composition d'un nom hébreu, Bar, fils d'eux, et d'un nom grec, Timée. Ceux d'entre vous qui ont fait de la philo se rappellent que c'est un nom d'un dialogue de Platon, le Timée. C'est un nom grec. Ce Bartimée, on le voit, est triplement en marge, puisqu'on nous explique qu'il est mendiant, donc il est en marge de la société. Il est exclu de ce que tous les autres voient, puisqu'il est aveugle, et on vous le montre quasiment visuellement dans la description qu'on fait l'évangéliste, il est sur le bord du chemin. Il n'est pas au milieu de tous. Il est sur le bord du chemin, arrêté alors que les gens sont en marche. En entendant que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi ». Alors, bizarrement, l'aveugle n'a pas de problème, n'est pas un muet, mais on le voit, la difficulté pour lui, c'est d'abord de se faire entendre. Il est dans sa marginalité, il a quelque chose... Il est quelque part sur le bord du chemin et il veut faire partie du groupe. Et on voit que la difficulté pour lui, c'est d'arriver à rompre l'éloignement. C'est d'arriver à faire entendre sa voix parce que justement, il est sur le bord du chemin et qu'il y a la foule. La foule qui fait écran. La foule qui est une sorte de paravent entre Jésus et l'aveugle. Et pourtant, il ne se décourage pas et manifeste sa confiance. Et vous avez remarqué que c'est une véritable proclamation de foi qu'il est en train de faire. Hein, puisque on passe dans la même phrase à Jésus le Nazarénien qui était dit par l'évangéliste, en entendant que c'était Jésus le Nazarénien. Donc, une dénomination objective. Jésus, c'est le fils de quelqu'un qui est né à Nazareth. Il est né à Nazareth, donc il est nazarénien. Enfin, il est né à Bethléem, mais il est originaire de Nazareth, si vous voulez. Et on passe donc de Jésus le Nazarénien à fils de David, qui est une proclamation messianique. On inscrit Jésus dans la lignée davidique. Il y a donc deux fils face à face. Il y a le fils de Timée d'un côté, qui appelle le fils de David. Fils de David, je l'ai dit, c'est le nom du Messie, puisque dans l'espérance juive, et en particulier dans les prophètes, on vous explique que c'est dans la lignée de David que viendra le Messie, et on sait que que petit à petit, l'expression même fils de David, alors qu'il y avait beaucoup de fils de David, l'expression même désignait le Messie. Aie pitié de moi. Vous voyez que Bartimée demande de l'attention, il demande de la pitié. Ce n'est pas une demande d'aveugle, ce n'est pas une demande de mendiant, c'est une demande d'homme. Vous voyez comment les choses se font. La foule, en le rabrouant, le ramène à son extériorité, le ramène à sa condition de mendiant. Et en disant, la foule, on ne sait pas ce que dit la foule, mais en gros, on lui dit, ne dérange pas le maître, probablement, quelque chose comme ça. Donc, il le laisse dans sa marginalité. Et lui a une demande qui est une demande d'homme. Il demande qu'on le regarde, ce qui est bizarre pour un aveugle. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Vous voyez que lorsque Jésus s'arrête, le monde change, les relations sont bouleversées et les positions de chacun sont modifiées. Il y a là, c'est tout à fait frappant, une sorte de sociologie de la foule que l'on va retrouver au moment de la Passion. C'est une sorte d'annonce de la passion. Puisque la foule qui avait une sorte de mépris pour le mendiant, en le rabrouant, il suffit qu'on lui montre, enfin que Jésus manifeste de l'attention pour le mendiant, pour qu'au contraire, elle joue les personnes vertueuses, confiance, allez, vas-y, enfin, vous voyez, la foule est inconstante, et il va se passer exactement la même chose pour la passion. Donc la foule, elle ne vaut pas grand-chose, hein. Et chez Marc, la foule, il faut s'en méfier. Les gens, il faut s'en méfier. Seuls comptent ceux qui ont un nom, donc qui sont des personnes. Lorsqu'elle est dans la masse, la personne se dissout. Donc, on appelle l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et vous voyez que Bartimée se déplace de manière jaillissante, il bondit. Et d'instinct, on a l'impression qu'il voit Jésus. Il bondit et vient à Jésus, comme si on n'a pas besoin de le guider. Et il abandonne tout. Il abandonne l'état antérieur de mendiant assis sur le bord du chemin. Il abandonne le manteau. Dans l'Orient, le manteau, c'est la plus importante des possessions. C'est la chose que vous n'avez pas le droit de saisir. Sur quelqu'un, c'est dit dans le Lévitique, pour une raison simple, c'est que le manteau, c'est aussi la couverture, c'est ce qui permet de dormir, c'est le lit en même temps. Et donc, le Lévitique vous dit, vous pouvez tout prendre, mais vous ne prenez pas le manteau. Donc, quand il abandonne ce manteau, ce que nous dit l'évangéliste, c'est qu'il réalise le programme assigné aux disciples. Le disciple doit tout quitter pour suivre Jésus. C'est ce qu'il fait. Donc, ça dit la position de confiance que ce mendiant, dans laquelle ce mendiant se trouve. Et ce jaillissement, ce bondissement dit aussi la force, la volonté de rencontre. Celui qui va être sauvé, c'est celui qui a voulu rencontrer. C'est pas celui que Jésus a tiré du bord du chemin. C'est celui qui a voulu sortir du bord du chemin. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Je vous ai cité les quatre occurrences de l'expression « ta foi t'a sauvé ». C'est des gens qui veulent s'en sortir. Ça demande un effort d'aller rencontrer Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabbouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé, donc et. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Vous voyez que l'aveugle demandait qu'on le voie comme une personne, puisqu'il demandait de la pitié, et Jésus répond en le regardant. Jésus répond en lui posant une question, comment dire, d'être humain à être humain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Donc, il lui donne son individualité. Il ne le regarde pas comme... vous savez, un aveugle, c'est interchangeable avec un autre aveugle. Et c'est vrai de toutes les caractérisations sociales. Un arabe, c'est interchangeable avec un autre arabe. Mais à partir du moment où vous demandez « Mais toi, qu'est-ce que tu veux ?» Vous considérez quelqu'un comme un être humain. Et c'est ce que Jésus fait. Que veux-tu que je fasse ? Et évidemment, la demande spontanée de Bartimée, c'est voir. Rabboni, que je recouvre la vue. Alors, On n'a pas de récit de la guérison. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. On nous dit pas qu'il crache dans ses mains, qu'il lui, vous voyez, un peu de magie. La seule chose que l'on voit, c'est simplement la demande. Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Vous voyez que le fait que l'aveugle soit rentré en contact avec Jésus en le reconnaissant tel qu'il est, pour lui demander une demande personnelle, immédiatement, le désir est comblé. C'est un dénouement heureux, les phrases, enfin la façon dont les phrases sont composées, nous défendent d'en rester au simple émerveillement face à la grande gentillesse de Jésus qui guérit les infirmes. C'est quand même sympa de sa part, évidemment, mais il y a plus que ça. Pourquoi ? Parce que vous voyez que Bartimée ne s'est pas adressé à lui comme au fils de David, mais comme à son maître, en l'appelant Rabbouni, c'est-à-dire petit maître. Au passage, c'est le même terme qu'utilise Marie-Madeleine. Donc, vous voyez qu'une relation de maître à disciple s'instaure, qui transcende les rapports sociaux, ça aussi c'est très important, pour entrer dans des rapports spirituels. Et vous voyez que la guérison intervient, comme le précise Jésus, en raison de la foi du fils de Timée. Et vous voyez que Jésus dit quelque chose de plus important que « ça va, t'es guéri ». Ou que « ok ». Tu vas voir. Il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et donc, forcément, vous êtes obligé d'interpréter ça de manière un peu théologique ou de manière peut-être plus profonde que simplement des questions de guérison. Vous êtes obligé d'interpréter cette déclaration et donc cet aveuglement comme une question spirituelle. D'une certaine façon, Bartimée était un aveugle spirituel, puisque la foi l'a sauvé. Alors, je m'arrête là sur l'analyse du texte. Vous voyez que il y a des conclusions à tirer de mon analyse. Volontairement, je ne les tire pas, puisque ça va être vous qui allez les tirer grâce à mes petites questions. Donc, voilà, je vous ai lancé quelques pistes. Après, il va falloir se poser la question, mais... qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, cette foi et qui sauve ? Et qu'est-ce que c'est qu'être sauvé ? Je vais maintenant passer à la pécheresse. Alors là, c'est beaucoup plus... ça, c'était gentil, l'aveugle. La pécheresse, c'est du lourd. Alors, c'est un texte, là aussi, assez connu... vous le savez, qui est présent dans les synoptiques que chez Luc sous cette forme-là, puisque des gens qui parfument Jésus, il y en a plusieurs, des gens qui font donc cette onction, il y en a plusieurs. Chez Jean, on vous explique que c'est Marie de Béthanie. Donc voilà. Là, chez Luc, il y a une configuration particulière qui est que la femme qui réalise cet acte est une femme inconnue et qu'elle a la caractéristique d'être une pécheresse. Un pharisien l'invita à manger avec lui, donc invita Jésus à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, pharisien, tout de suite, cela vous oriente vers une compréhension particulière. Ne soyons pas victimes des idées toutes faites. Jésus est probablement lui-même issu du milieu pharisien ou proche du milieu pharisien. Et quand vous regardez comment les pharisiens sont présentés dans l'Évangile, les choses ne sont pas univoques. C'est-à-dire que c'est vrai que ce sont plutôt des ennemis, mais en réalité, et le texte le montre, il y a fréquentation assidue des pharisiens du groupe de Jésus et réciproquement Jésus n'hésite pas à aller manger chez lui. Donc il y a quand même un rapport plutôt sympathique. Ce que vous apprend le fait que ce soit un pharisien, c'est l'idée que c'est quelqu'un qui a un respect particulier pour la loi. Et c'est cette question de loi qui est au centre de l'épisode. Il entre dans la maison du pharisien et se met à table. Alors le texte traduit un peu imparfaitement le verbe grec. On aurait pu faire un peu de grec, ça serait amusant. C'est un verbe qui signifie être couché. Il se coucha. Qu'est-ce que ça vous indique? Ça vous indique que ce n'est pas simplement un casse-croûte pris sur le pouce, mais c'est un banquet. On est dans une sorte d'invitation un peu solennelle. Hein? Et ça, ça va jouer un petit rôle. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un flacon. Apportant un flacon. Je croyais que c'est le cœur des anges qui tout d'un coup m'accompagne. Je me dis que là, je dois faire vraiment, ça doit être intéressant ce que je raconte, parce que pour que les anges changent en même temps. Apportant un flacon de parfum en albâtre et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes, elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. Alors plusieurs choses sont importantes. Première chose, c'est une pécheresse. Malheureusement, il n'y a pas de pile sur l'iPhone, ils sont à l'intérieur. Alors, c'est une pécheresse. Alors, je crois qu'il faut en finir avec l'interprétation uniquement sexuelle qu'on a entendu mille fois, c'est une prostituée. Pour une femme seule, il y a bien des occasions de devenir pécheresse sans forcément se livrer à la fornication ou à la porneia, comme on disait. La première, c'est que lorsque vous vous mariez avec un étranger, vous êtes une pécheresse, lévitique. La deuxième, c'est lorsque vous êtes adultère, vous êtes aussi une pécheresse. Vous n'êtes pas obligé d'être prostituée pour être adultère. On peut être adultère sans être prostituée. Vous pouvez être aussi pécheresse si vous êtes une femme juive qui s'est trouvée vendue à un étranger. C'est-à-dire que, normalement, une femme juive... Vous savez que l'esclavage n'a pas été aboli hein, dans l'Antiquité. Normalement, les juifs sont libres, parce que les Romains l'ont fait comme ça. Mais il y a des cas où les juifs sont esclaves. Vous pouvez devenir esclave lorsque vous perdez tout votre argent. Et donc, finalement, la manière de rembourser vos dettes, c'est de vous livrer à l'esclavage. C'est permis. Donc un juif peut être l'esclave d'un juif. Et vous pouvez être aussi esclave lorsque, ayant accompli un voyage, les romans grecs et latins adoraient ce genre d'aventure, ayant accompli un voyage, vous êtes capturé par des pirates. Alors c'est des pirates ou c'est des gens qui peuvent faire de la piraterie pour le compte d'un roi de l'époque et même quelquefois des Romains eux-mêmes, hein, les pirates un peu officiels, et donc vous êtes vendu comme esclave. Et le péché vient lorsque vous êtes vendu comme esclave. Et vous êtes une femme vendue comme esclave à un étranger. Parce qu'on imagine qu'on vous fait subir les derniers des outrages, puisque en tant qu'esclave, vous êtes un bien meuble, si on peut dire. Hein. Donc, elle n'est pas forcément une prostituée. Et si j'insiste sur ces affaires-là, c'est que même si elle est prostituée, elle n'est pas vraiment responsable. Je veux dire par là que la situation des femmes est suffisamment complexe dans le monde méditerranéen pour que ce que nous appellerons, ce qu'on appelle le péché, nous l'appellerions de mille autres mots. C'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus. C'est une pécheresse. Alors, le texte grec est très précis. Il vous dit pas comme le traduit la Tobe. C'est une femme de la ville qui était pécheresse. Il vous dit très exactement. C'était une femme qui, dans la ville, était pécheresse. En grec, c'est une expression étrange. Ça vous pose la question encore une fois du regard. Elle est pécheresse dans la ville. Alors, vous pouvez le prendre au sens simple, hein, comme le prend le traducteur, en disant, elle est de la ville, elle est pécheresse. Mais l'expression est suffisamment étrange pour que on puisse se demander s'il n'y a pas une légère pointe de comment dire, comme avec Bartimée, de questions sociales. Est-ce qu'une autre ville l'aurait déclarée pécheresse? Est-ce que c'est pas la ville qui décide qu'elle est pécheresse? Vous voyez, il y a cette nuance là. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette femme qui dans la ville est pécheresse? Elle apporte un flacon de parfum en albâtre, ça veut dire que c'est un parfum relativement coûteux, puisque le contenant est coûteux. Et puis, elle se place par derrière. Alors, là aussi, c'est facile à comprendre si vous voyez comment on fait un banquet. Évidemment, quand on fait un banquet, on met les têtes, on est en U, hein, et puis on met les têtes. Tout autour du U, hein. Et donc par derrière simplement elle a accès aux pieds tout simplement, hein. Elle est par derrière et elle fait un geste totalement interdit qui consiste à être aux pieds de Jésus, à baigner ses pieds de larmes, ça c'est pas interdit, mais à défaire ses cheveux, essuyer le parfum avec les cheveux et les couvrir de baisers. Pourquoi est-ce que c'est doublement ou triplement interdit? D'abord, une femme ne va pas en cheveux. C'est-à-dire qu'une femme digne ne se décoiffe pas en public. Comme il y a quelques années, on avait un chapeau quand on était une femme bien. Donc, on est là dans... un écart à la norme. Et puis, on ne touche pas les pieds, pour deux raisons. Dans le monde grec, le fait de laver les pieds, c'est un geste qui est réservé aux esclaves. Donc, une femme libre ne fait pas ça. Et dans le monde sémitique, les pieds, sont de l'ordre de l'intime. Et d'ailleurs, vous avez quelques expressions dans l'Ancien Testament dans lesquelles manifestement on parle de pieds, mais tout aussi manifestement on désigne une autre partie de l'individu un tout petit peu plus haut que les pieds. Si je suis assez clair. Donc, le fait que les pieds soient une métaphore sexuelle nous dit que c'est quelque chose de très très intime. Et de fait, on ne se déchausse pas devant n'importe qui, si j'ose dire. Hein? Donc, elle fait en public un geste doublement interdit. Un, elle défait ses cheveux. Et deux, elle fait ce geste de d'oindre les pieds de larmes et de parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Le mot important, c'est le mot « toucher ». Pourquoi ? Parce que dans la conception juive, l'impureté se communique par contact. Donc, on ne touche pas le péché. Le péché, vous savez, c'est le péché comme le sacré, salit. On est sali par le fait de toucher les choses saintes, donc il faut se dépurifier. Et on est sali en touchant des choses impures, et il faut se purifier. Donc, le problème supplémentaire, si vous voulez, que je n'ai pas mis tout de suite sur le terrain, mais c'est le fait qu'elle touche, à la limite, elle se serait contentée de lui dire, de pleurer devant lui de loin, pas de problème, là, elle touche. Donc, elle lui communique son impureté. Et puis il y a ce côté test, vous voyez, c'est un prophète, tiens, comme c'est bizarre, un prophète qui ne sait pas à qui il a affaire. Normalement, le prophète sait tout. Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux, lequel des deux l'aimera le plus. Vous voyez que Jésus sonde les reins et les cœurs, si je puis dire, puisque il se montre pas prophète sur la pécheresse, mais il se montre bien prophète sur le Simon, puisque Simon il l'entend murmurer dans son dans une péto, quoi. Il l'entend en train de grogner en se disant qui c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Et Simon, étrangement, l'appelle maître. Vous voyez que vous avez une parabole qui est incluse dans la parabole, enfin ou dans la narration. Le créancier et ses deux débiteurs. Il s'agit de sommes énormes, 500 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est le salaire d'une semaine d'un soldat romain. Donc c'est quand même 500 pièces d'argent, c'est une forte somme. Il y a une narration, enfin un cas assez simple, un montant d'argent, et puis, vous comprenez évidemment que celui à qui on rembourse plus est plus content que celui à qui on rembourse moins. Mais c'est quand même tout à fait étrange, puisque vous vous apercevez que, en posant la question de l'amour, qui est le point central, on passe de la logique du rapport comptable, l'argent est une unité de mesure objective. Remettre une dette, c'est remettre une dette, quel qu'en soit le montant. Donc finalement, tout le monde est content. À une logique différente qui est une logique subjective, une logique de relation, une logique d'amour. Et voyez également que dans cette parabole, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, parce que le maître, enfin celui qui, enfin le créancier, fait quelque chose qui normalement ne se préoccupe pas des convenances. Donc, Simon répond à la question de Jésus, mais devrait dire, pourquoi il fait ça? Et là, c'est là où Simon est pris au piège, c'est la suite. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Alors là, on est dans... on va rester un peu sur cette longue déclaration de Jésus, parce que c'est là où la plupart du temps on ne comprend pas la pointe du texte. On a l'impression que c'est simple, mais en réalité c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, j'analyse rapidement le contexte. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, il se tourne vers la femme, et ce faisant, donc il tourne le dos à Simon. Et il demande à Simon de regarder. Tu vois cette femme, probablement parce que Simon l'a ignorée. Simon ne s'abaisse pas à aller regarder la pécheresse, tout de même, surtout quand on est chez soi. Hein. Jésus va donner le sens de la parabole en reprenant les gestes que fait la pécheresse et en reprenant les gestes que n'a pas fait Simon. Simon qui, encore une fois, s'est fait avoir, parce que non seulement il a déjà répondu à la petite parabole de Jésus, donc il est un peu coincé, mais en plus il l'a appelé maître. Et l'autre lui dit, si tu me prends pour un maître, y a les relations qui vont avec. Hein. T'as intérêt à faire attention aux mots que tu emploies. D'ailleurs, Jésus est plutôt modeste, hein, il ne demandait pas du parfum, lui il demande un peu d'huile, hein, il demande une simple marque de confort. L'huile, c'est dans l'Antiquité, c'est comme la douche, hein, c'est la marque minimale de confort. La preuve, c'est que les Esséniens n'utilisaient pas l'huile, et tout le monde le remarque dans les textes, manière de dire comme ils étaient des ascètes parce qu'ils ne s'enduisaient pas d'huile. C'est comme ça. Donc finalement, ce que dit Jésus, c'est t'as pas fait le minimum du respect que tu me devais. Alors, toute la difficulté du texte est dans « Si je te déclare que ces péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. La compréhension spontanée que l'on en a, c'est de dire que contritio caritate perfecta, selon l'expression du Concile de Trente, la contrition, donc le regret, est rendue parfaite par la charité. En gros, on est en train de dire, elle a été très gentille, elle a montré beaucoup d'amour, et Jésus, qui aime qu'on lui montre de l'amour, il a été non moins gentil, et il lui a pardonné ses péchés. Je pense que, j'ai pas testé votre compréhension de la parabole avant, mais je pense que spontanément, vous avez tous cette compréhension-là. C'est la compréhension que tout le monde a. Le problème, c'est que, et c'est là où ça va devenir très intéressant, le problème, c'est que ça ne va pas du tout avec ni ce qui précède, ni ce qui suit. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez cette compréhension-là, et c'est en citant le Concile de Trente, je vous indique c'est parce qu'on vous l'a donné. Depuis très longtemps, on lit ce texte de cette manière-là parce qu'on y a intérêt. Ce texte a servi au Concile de Trente pour formuler la doctrine de la contrition en lien avec le sacrement de réconciliation. C'est-à-dire qu'on dit, le fait que Dieu se laisse fléchir, c'est contritio caritate perfecta. Vous avez la parfaite contrition et vous avez ce qu'on appelait autrefois le ferme propos, c'est-à-dire la volonté de ne pas recommencer. Ce ferme propos, c'est un acte d'amour envers le Seigneur. Bon. Donc on a longtemps interprété ce texte de cette manière-là pour une raison très particulière. Cependant, ça ne va pas avec la phrase qui suit, parce que la phrase qui suit, c'est « Tes péchés ont été pardonnés ». Et Jésus dit « ont été ». Et il ne dit pas « te sont pardonnés ». Donc, le moment du pardon n'est pas le moment où Jésus prend en compte la contrition, si j'ose dire. Ce moment est venu avant. Ensuite, ça ne va pas du tout avec la parabole. La parabole ne parle pas de l'amour du débiteur vis-à-vis du créditeur. La parabole dit quand on vous remet une dette, vous êtes très content. Et ça ne va pas non plus avec l'idée que c'est la foi qui sauve. C'est la foi, c'est pas l'amour. Je suis désolé. La charité, c'est très bien. Il faut faire la charité, il faut être très charitable. Mais c'est pas ça qui vous sauve. Personne ne le dit. Personne ne dit vous allez être sauvé par l'amour. Ce qui sauve, c'est la foi. Et donc, si vous voulez, on voit bien pourquoi les catholiques, le Concile de Trente a interprété la parabole comme ça, parce qu'il a tout intérêt, le Concile de Trente, à contrebalancer la doctrine protestante de la foi simple avec la doctrine des œuvres. Et l'amour, ça fait des œuvres. Normalement, quand on aime quelqu'un, on lui fait des bisous. Ou quand on aime quelqu'un à qui on ne fait pas de bisous, on lui donne de quoi manger, on fait des choses. L'amour, spontanément, a des marques. Et donc, alors que la foi, c'est plus difficile. Vous voyez que cette compréhension, c'est un peu retrouver les œuvres de la loi. On achète Dieu à coup d'amour. Mais si, je t'aime bien, je suis très pécheur, mais je t'aime bien. Et j'ai Dieu qui dit, bon, allez, ça va. Je crois qu'il faut revenir un peu avant le Concile de Trente, et en particulier à saint Augustin, qui vous explique que la foi la contrition n'est pas achevée par l'amour, mais que la foi est informée, il dit formata, par la charité. En gros, la charité est la marque du fait que l'on est sauvé. C'est l'inverse. On n'achète pas le salut par l'amour, mais parce qu'on est sauvé, on est capable d'aimer. Et c'est ça que dit Jésus. C'est ça que dit Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, je reformule la phrase d'une manière plus claire. Voilà pourquoi je te le dis, toi Simon, ces péchés ont bien été pardonnés, eux qui sont si nombreux, parce qu'elle montre beaucoup d'amour. Donc le fait qu'elle le montre, le fait qu'elle soit capable d'aimer, ça prouve qu'elle est déjà sauvée. Si elle était dans son péché, elle ne serait pas capable d'aimer. Et cette question-là est une question, en réalité, tout à fait fondamentale. Puisque l'amour est un fruit du salut dans cette conception-là. Et donc, le fait que vous aimiez quelqu'un est en vous la marque que vous êtes sauvé. C'est pas le fait que vous aimiez qui va vous sauver. C'est la marque que vous êtes sauvé. Et si je puis me permettre une petite remarque d'actualité. On m'a dit que j'avais le droit de faire quelques remarques d'actualité. Je crois que c'est là où vous connaissez l'actualité, en particulier sur les manifestations, pour tous, pas pour tous. Bon. Je crois que c'est là où l'Église se retrouve tout à fait coincée avec ces histoires de mariage. Pourquoi ? Parce que Jean-Paul II, qui à un certain moment a fait, je suis tout à fait fidèle à la ligne, je reprends une des catéchèses de Jean-Paul II sur ce texte, enfin une des homélies de Jean-Paul II sur ce texte. Hein. Jean-Paul II, qui finalement a entériné le grand changement sur la théologie du mariage du XXe siècle. Hein. C'est lui qui, dans ses nombreux écrits, a fait passer l'Église, si vous voulez, d'une conception du mariage où si le mariage est indissoluble, c'est parce qu'il est un sacrement et que l'amour est un supplément. C'est la conception ancienne. Vous avez le sacrement, vous vous mariez avec qui vous pouvez, si vous l'aimez, c'est mieux. Et ça c'est la conception de Jean-Paul II, le sacrement porte sur l'amour. C'est-à-dire, le fait que vous receviez le sacrement fait que vous allez être capable d'aimer dans votre couple. Si vous voulez, l'amour est la preuve de l'efficace du sacrement. Donc il est bien dans cette idée-là que le salut crée l'amour. Et pas l'amour en plus ou voilà. Ben, le problème c'est ça, c'est que maintenant l'Église est coincée. Parce que comment peut-elle refuser à des gens qui disent « Ah mais on s'aime » le mariage ? Puisque le mariage, l'amour est la marque du salut. En quoi, au nom de quoi, peut-on refuser le sacrement à des gens qui vivent quelque chose qui prouve qu'ils sont sauvés ? Alors c'est pour ça, et à Louvain, j'en ai discuté avec mes collègues en théologie, c'est pour ça qu'on se réfugie sur la question du droit naturel. C'est beaucoup plus simple. Droit naturel, il y a un homme, une femme, comme de toute façon personne ne sait ce qu'est le droit naturel, on est tout à fait tranquille. Mais vous remarquez que les arguments de l'Église sont absolument pas sur la question du mariage. Parce que les gens ont bien compris que, voilà. Les mains, ils s'étaient déjà liés les mains, c'est de la faute à Jean-Paul II. Il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés. Donc, c'est tout à fait dans mon exégèse. C'est-à-dire que les péchés ont été pardonnés précédemment. Alors, à quel moment ? Est-ce que c'est au moment où elle a pris la décision d'aller voir Jésus ? Probablement avant, parce que si elle a pris cette décision-là, c'est que déjà... Elle était en train d'être sauvée. Et j'ai attaqué le Concile de Trente sur la doctrine du sacrement de réconciliation. La doctrine actuelle vous dit ça. À partir du moment où vous avez commencé de faire le chemin vers le confessionnal, c'est que le salut est déjà acquis. Le prêtre, heureusement. Ne vous donne pas le salut au moment où il fait le geste sur vous. Ça voudrait dire que c'est lui, le Christ, qui pardonne. Il ne fait que relayer la parole du Christ. Donc le Christ a déjà pardonné, la preuve, vous êtes déjà dans le confessionnal, et le prêtre vous ne fait que vous que prononcer la parole qui de toute façon a déjà été prononcée sur vous. Ça c'est la doctrine contemporaine hein, du sacrement de réconciliation. Donc le sacrement entérine et ne crée pas. Donc il dit à la femme, tes péchés ont été pardonnés, bon ben très bien. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Alors c'est là que tout le sel de la parabole est, c'est-à-dire que les gens font l'erreur de penser que c'est le Christ qui pardonne. Et quand vous regardez l'évangile de Luc, Jésus fait très attention de dire, chez Jean aussi, que c'est pas lui qui pardonne au nom d'eux. Donc, ils font l'erreur qu'on fait assez souvent. Jésus ne pardonne qu'au nom de son Père. Donc, il ne fait que prendre la place du confesseur, si vous voulez, du prêtre, hein, qui prononce de vive voix une parole qui a déjà été prononcée de toute façon. Donc, le pardon, il est déjà acquis. D'où la phrase que Jésus dit à la femme. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il la prononce là aussi au passé, pour dire que ça a déjà été fait de toute façon. Et il dit exactement la même chose ce qu'il a dit dans un autre évangile il dit à propos de Bartimée. Et c'est là-dessus que je termine. Le ta foi t'a sauvé s'accompagne toujours d'un va. C'est-à-dire que alors là c'est un va en paix. La foi qui sauve ne sauve pas comme une sorte de rétablissement d'une relation dans laquelle on resterait confit en prière, en admiration et en tout ce que vous voulez. Le salut va de pair avec un ordre de s'éloigner, c'est-à-dire de mener sa vie. Le salut renvoie au chemin propre à celui qui est sauvé. Il lui dit, va en paix, mène ton chemin, tu n'es plus attaché à moi. Et ça, je crois que c'est très important. La marque même du salut. C'est-à-dire que le salut est donné, alors je vais anticiper sur Paul, mais ça vous fera une petite piqûre de rappel, le salut est donné gratuitement, il commande une certaine forme de reconnaissance, mais il ne serait pas vraiment gratuit s'il commandait un attachement, dans le sens où Jésus n'en fait pas la quatrième ou la cinquième de ses épouses, hein, de la pécheresse. Il n'en fait pas celle qui, tous les matins, va lui laver les pieds, ce qui serait peut-être confortable pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il la renvoie à son propre chemin. Le salut n'a de sens que si il permet, de renvoyer l'autre à son chemin. Et vous voyez qu'il y a deux décisions qui vont être prises. Enfin, est-ce que c'est deux fois on ne sait pas très bien. Mais dans le cas de Bartimée, Bartimée va choisir de suivre Jésus. Dans le cas de la pécheresse, on ne nous dit pas. Elle disparaît de l'évangile. Donc, est-ce qu'elle a continué à devenir disciple? Est-ce qu'elle disparaît complètement? À la limite, ça serait presque aussi bien qu'elle disparaisse complètement, d'une certaine façon, pour dire, voilà, elle a été sauvée. Elle n'a pas besoin de revenir en permanence pour dire merci, 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 merci. La condition du salut, c'est qu'il soit gratuit. S'il n'est pas gratuit, ce n'est pas un salut. C'est un nouvel esclavage. On passe d'un esclavage à l'autre.